La cinquantaine de personnes, c'est ça, 40-50 personnes qui sont connectées en live. Ça, c'était ma photo. Quand j'ai montré cette photo à mon ami Rémi Gérin, qui dirige la chaire Grande Consommation à l'ESSEC et l'entreprise Meta Performance, il m'a dit, Jérôme, on dirait que tu sors de prison sur cette photo. Donc je me trouvais que c'était adapté pour ce soir. Donc j'ai changé de photo depuis, mais j'ai ressorti celle-là pour l'occasion parce que je trouvais que c'était dans la thématique. L'actu judiciaire est déjà assez chargée, donc on s'est dit qu'on pouvait rajouter un procès en plus. Alors nous, à la différence d'autres, on a déjà sorti un livre avant le procès. Donc le livre d'Élise Leclerc, que vous pourrez retrouver, je crois, ensuite sur le qui traite du sujet de ce soir. Je voulais vous dire que vous êtes à jamais les premiers à participer au premier procès de la mesure d'impact. Donc bravo, vous serez dans les tablettes de l'histoire. Vous pouvez en être fier. Donc ce procès, il est organisé par, hop, j'enlève cette photo donc, le Centre Innovation Sociale et Écologique de l'ESSEC que j'ai la chance de diriger. Ce centre, il regroupe un certain nombre d'initiatives qui ont été prises à l'ESSEC depuis bientôt 20 ans, on va dire, dans la lignée de ce que fait la chaire d'innovation sociale à l'ESSEC depuis, elle, 25 ans. Entropia ESSEC, qui est notre accélérateur d'entreprise sociale, le laboratoire d'évaluation et de mesure d'impact social, mais aussi ESSEC Impact Unlimited, qui est notre activité de conseil que nous avons développée depuis quelques années. Et tout ça est regroupé, c'est une équipe d'une quinzaine de personnes, toutes plus formidables les unes que les autres. Et c'est donc nous qui organisons ce procès ce soir. Je voulais. Pardon, non, c'est dans l'autre sens. Pardon. Juste dire un grand merci à nos partenaires. On est sur un fonctionnement où ce qu'on fait par exemple pour les entrepreneurs sociaux, c'est gratuit pour les entrepreneurs sociaux. C'est possible parce qu'on a des partenaires qui nous aident à financer tout ça. C'est aussi l'idée que nous, on est un objet universitaire. On aime bien discuter avec toutes les parties prenantes qui peuvent être impliquées autour d'un sujet pour essayer de le comprendre au mieux. Donc au-delà de partenaires financiers, ce sont aussi des partenaires qui nous fournissent des terrains, du contenu, leurs analyses, leur expérience. Et c'est ça qui fait un centre dans une université comme l'ESSEC. Bien sûr, on se pose aussi des questions sur notre impact, je voulais vous le dire au passage. Et pour la petite histoire, le tout début de cette soirée, c'était on va présenter la mesure d'impact d'Entropia, parce qu'Entropia a fait un magnifique travail de réflexion sur qu'est-ce que c'est l'impact d'un accompagnement. De fil en aiguille, on va faire autre chose finalement ce soir. On va faire le procès de la mesure d'impact parce qu'on a discuté tous ensemble et on s'est dit finalement on est arrivé à ça. Je voulais vous dire au passage quand même qu'on a sorti aussi au mois de novembre un outil qui s'appelle Critérium, qui est un outil pour mesurer l'impact de l'accompagnement à l'entrepreneuriat social qui a été fait avec en coopération au sein d'une alliance qui s'appelle le KIF avec un financement du Fonds social européen et avec l'appui de la VISE qui va aussi dans ce sens-là. Mais nous verrons si tout ça est encore utile après cette soirée, puisque nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes et d'organiser un procès de la mesure d'impact. Et je vais passer la parole à Muriel pour que tu nous dises pourquoi on a voulu faire ça.
Bonsoir à toutes et à tous. Alors, bienvenue. Si nous vous avons réunis ce soir, sous cette forme un peu particulière, celle d'un tribunal, ce n'est pas par amour du spectacle, c'est par nécessité. Pourquoi un procès, me direz-vous? Parce que nous sommes arrivés à un moment de bascule. Il y a 10 ou 15 ans, parler de mesures d'impact, c'était innovant, c'était excitant, on défrichait, on était pionniers. Aujourd'hui, le sujet est partout, il est sur toutes les lèvres. Dans tous les appels à projets, sur tous les rapports annuels, l'impact est devenu la langue commune de l'économie sociale et solidaire et l'engagement des entreprises. Mais voilà, quand une idée devient dominante, elle risque de devenir dogmatique. Quand un outil devient la norme, on oublie parfois de questionner sa pertinence. Nous avons senti dans nos échanges avec vous, acteurs de terrain, financeurs, pardon, je tourne la page. Chercheurs, une sorte de signal faible, mais de plus en plus fort. Une tension palpable entre l'envie de bien faire, de prouver sa valeur, et le sentiment d'être parfois pris au piège d'une mécanique qui nous dépasse. Il y a ceux pour qui la mesure est une vraie boussole indispensable, un levier de progrès formidable, il y a ceux pour qui elle devient une injonction paradoxale, voire une source de souffrance. Alors plutôt que de faire une énième table ronde, où tout le monde serait poliment d'accord sur le fait que la mesure, c'est complexe mais important, nous avons choisi la radicalité du procès. Le procès, c'est la fin du consensus mou. C'est l'obligation de trancher. C'est mettre face à face, sans filtre, les promesses de la théorie et la rugosité de la réalité. Ce soir, nous ne sommes pas là pour détruire la mesure d'impact, ni pour la sacraliser. Nous sommes là pour la mettre à l'épreuve. Nous voulons crever l'abcès pour peut-être mieux guérir. Nous allons rire sans doute et peut-être nous indigner, mais surtout nous allons réfléchir ensemble. Car à l'issue de ce procès, l'issue, pardon, de ce procès ne dépendra pas seulement des avocats ou des experts, mais de vous, jury populaire, et de votre intime conviction. Est-ce que l'évaluation d'impact a trahi sa promesse? Est-elle simplement une adolescence difficile qu'elle vit actuellement et qui a besoin de maturité? Pour instruire ce dossier brûlant, il faut une justice implacable. Merci à tous.
Merci Muriel. Je fais juste un tour de merci pour tous ceux qui vont participer à ce procès en live, en plus de vous tous publics, donc nos témoins, nos experts, notre jury qui est là au premier rang. Merci de vous prêter à l'exercice. Et à partir de maintenant, je déclare le procès de la mesure d'impact ouvert et j'appelle la présidente du tribunal.
J'espère que ça ressemble. Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, chers avocats, chers experts et témoins, chers publics, il est 18h30 et la séance est ouverte. Aujourd'hui, l'évaluation d'impact comparaît devant vous, Mesdames et Messieurs. Et il vous faudra oublier tout ce que vous savez sur l'évaluation, tout ce que vous savez sur l'impact et tout ce que vous savez sur le procès et la juridiction. Car aujourd'hui, c'est un procès de l'évaluation d'impact qui peut-être ne ressemblera pas à un vrai procès d'évaluation d'impact. C'est pour ça qu'on requiert votre humilité à notre endroit et surtout votre bienveillance, car l'idée, c'est surtout de passer un bon moment et de vous laisser aller, vous embarquer dans un bateau direction le procès de l'évaluation d'impact. Et il faut se laisser faire et il faut se dire que nous allons vivre une grande aventure tous ensemble avec ces témoins, ces experts, ces deux talents qui sont les avocats et ce jury éminent. Depuis une vingtaine d'années, donc, elle s'est imposée l'évaluation d'impact dans le paysage comme un instrument qui est de facto extrêmement stratégique pour prouver l'efficacité d'une action sociale, comme un outil aussi pour piloter, pour rendre des comptes, pour mesurer ce qui compte vraiment. Et elle porte en elle une promesse: rendre visibles les changements sociaux produits pour mieux orienter les décisions. Mais évidemment, mesdames et messieurs, ce pourquoi nous sommes là, c'est que cette promesse a un revers. Car derrière l'enthousiasme, la défiance gronde. Une démarche jugée coûteuse, complexe, jargonneuse, parfois imposée, où l'on soupçonne l'impact washing de remplacer la réalité du changement. Autant de tensions légitimes qui sont ce soir exposées au grand jour. Et c'est d'ailleurs précisément la fonction d'un procès: entendre les critiques, éprouver les arguments, reconnaître les dérives possibles, sans renoncer, évidemment, à ce qui, dans cette démarche, peut être profondément utile lorsqu'elle est bien pensée. Et alors, parce que la ZAFET fonctionne très bien, nous avons ce soir deux chefs d'accusation. D'abord, le coût humain et financier de l'évaluation d'impact. Voilà ce qu'on lui reproche ce soir. C'est une démarche exigeante qui mobilise du temps, des compétences rares et des ressources qui sont considérables. Le risque, évidemment, c'est de consacrer plus d'énergie à mesurer qu'à réellement agir. Et parfois, on épuise les équipes au lieu de les soutenir. Deuxième chef d'accusation, le fait que l'évaluation d'impact peut être considérée comme un instrument de vassalisation et de pouvoir. Elle est souvent exigée par les financeurs, elle peut devenir un outil de contrôle. Certaines organisations viennent à orienter leur mission vers ce qui sa mesure plutôt que ce qui importe réellement. La performance chiffrée supplante alors l'ambition sociale. Voilà ce à quoi l'évaluation d'impact devra répondre ce soir dans toutes ses voix, dans tous ses regards, dans tous ses témoignages et ses plaidoiries et ses expertises. Mesdames et messieurs, une question pour vous. L'évaluation d'impact est-elle coupable ou innocente? Pour établir la vérité, nous entendrons successivement les experts, Florian Covelli, qui est directeur général de l'Institut français du monde associatif. Élise Leclerc, directrice et cofondatrice du laboratoire d'évaluation et mesure d'impact social et environnemental de l'ESSECT. On peut applaudir les experts, s'il vous plaît. Ces deux experts apporteront des éléments d'analyse sur la valeur de ces démarches, sur leurs limites et surtout sur les conditions pour qu'elles mesurent au service de l'intérêt général. Ensuite, nous accueillerons à la barre nos magnifiques témoins, Thomas Bozo, fondateur de Barnabé.io, et Olivier Arnaud Blanchard, CEO de L'Inclusion. On peut les applaudir. Ces deux témoins nous diront de manière extrêmement concrète et avec toute la sincérité qui les représente ce que l'évaluation d'impact a changé pour eux, a changé dans leur vie, dans la vie d'une structure, dans sa gouvernance, sa relation aux financeurs et surtout pour les bénéficiaires qu'elle sert. Et enfin, last but not least, ce soir il n'y aura pas plus de francs anglais à partir de ce que je viens de dire. À l'accusation, Dominique Abbas, notre très cher procureur, qu'on peut applaudir. Et à la défense, Maître Marianne Cousty, avocate à la défense. Leur mission ce soir, vous éclairer, éclairer le tribunal sur ce qui se joue derrière cette mesure, la justice, l'équité, la confiance accordée aux organisations et l'impératif de rendre des comptes à notre société. Tous ont prêté serment, factuellement, dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité sur l'évaluation d'impact. Enfin, vous, très cher jury, vous aurez une lourde responsabilité ce soir, celle de prononcer le verdict final, co-dit avec le public, j'y viens. Nous avons dans le jury, et on l'applaudit tout de suite, Jean-Baptiste Alabo, directeur de l'Action sociale retraite. Nous avons Emmanuel Audebourg, DAF chez Advance. Isabelle Le Diberder, responsable relations institutionnelles partenaires réseau chez PIMS Médiation. Merci Isabelle. Et enfin, la cadette de ce jury, Mathilde Collas, Desfrancs, étudiante en master à l'ESSEC, master sustainability, si je ne dis pas de bêtises. Merci Mathilde d'être là. Votre décision sera évidemment souveraine, coupable ou innocente. Quant à vous, cher public, vous ne serez pas de simples spectateurs, car vous aussi, vous allez devoir trancher si l'évaluation d'impact ce soir est considérée comme innocente ou coupable. Pendant la délibération de notre très cher jury, vous déciderez tous ensemble, collectivement, en intelligence collective, de mettre des mesures, de trouver des mesures à mettre pour réformer, améliorer l'évaluation d'impact social, car si procès il y a, c'est pour progresser collectivement. Voilà, le tribunal de l'évaluation d'impact est officiellement constitué. La parole est désormais aux parties et je suis très heureuse, mesdames et messieurs, d'appeler à la barre le premier expert. Il est contre l'évaluation d'impact, il est courageux ce soir. Il s'appelle Florian Covelli, il est délégué général de l'Institut français du monde associatif, qui produit des connaissances utiles aux associations et à ses partenaires. L'Institut conduit un programme de connaissances sur l'évaluation associative depuis 5 ans. Il a donc analysé les besoins des associations et des philanthropes sur le sujet. Et pour y répondre, il a soutenu l'expérimentation de nouvelles méthodes d'évaluation. Ses travaux l'ont amené à croiser la critique de la mesure d'impact par les associations et aussi par les acteurs de la philanthropie. Merci de l'accueillir comme il se doit.
Bonsoir, monsieur l'expert. Moi, j'aimerais que vous nous disiez quand même un peu, brièvement, mais clairement, à partir de votre expérience, en quoi cet outil, finalement, la mesure d'impact, l'évaluation d'impact, qui est censé être un outil, devient, au fond, un outil de vassalisation plus qu'autre chose.
Bonsoir. Nos travaux à l'Institut ont montré deux choses importantes. La première, c'est que la mesure d'impact social est devenue, et on l'a entendu, le cadre d'évaluation dominant, voire exclusif, pour les associations. Et la deuxième, c'est que l'évaluation est au cœur des relations entre financeurs et financés. Le problème, c'est que l'évaluation n'est jamais neutre. Elle pose un cadre de pensée qui oriente la manière dont on va regarder et dont on va construire l'action associative. Voilà pourquoi la question de vassalisation se pose. La première observation que je ferai, c'est que ce cadre, il vient essentiellement des financeurs pour répondre à leurs attentes, preuve de résultat, souci de transparence, bonne gestion, parfaitement légitime. Mais le problème, c'est que les indicateurs, ils sont définis en dehors des associations, dans une relation financeur-financier qui ne propose pas, par essence, d'espace de discussion sur ces indicateurs. Résultat, les associations finissent par se conformer à ce que regardent les financeurs, au détriment de ce qui compte pour leurs bénéficiaires. La deuxième observation, c'est que si on remonte à ses origines, on voit que la mesure d'impact s'enracine dans deux courants. Le premier, c'est le New Public Management, c'est-à-dire la rationalisation des finances publiques, qui applique une culture de performance au secteur associatif. Le deuxième, c'est l'entrepreneuriat social, qui introduit des modèles inspirés de l'entreprise et des logiques de productivité. Donc, non seulement les associations se trouvent dépossédées d'une grille de lecture de leurs actions qui est pensée à l'extérieur d'elles, mais elles se voient aussi plaquer un modèle qui, pour beaucoup, ne leur ressemble pas. Elles ne se voient pas ni comme prestataires de politique publique, ni comme des entreprises à finalité sociale. Je vous renvoie, pour aller plus loin sur ce sujet, aux travaux de l'Observatoire de la marchandisation du monde associatif, qui était soutenu dans le cadre de notre programme de connaissances.
Et ces deux travers que vous venez nous décrire très, très éloquemment, c'est-à-dire le fait qu'on plaque un modèle et que par ailleurs on regarde, enfin un modèle qui ne correspond pas aux assos et que par ailleurs on regarde uniquement ce qui intéresse les financeurs, est-ce qu'on peut les dépasser?
Alors, si la question est peut-on évaluer autrement, la réponse est oui. Et oui, on peut le faire en partant des associations elles-mêmes. Je vous renverrai par exemple à la méthode expérimentée par la Cabane de la Recherche, lauréate de l'Institut, qui s'inspire de la méthode de l'ethnocomptabilité et qui aide les associations à poser des indicateurs d'évaluation définis par elles-mêmes pour répondre aux besoins de leurs bénéficiaires et pour compter ce qui compte pour elles. Mais derrière la question de la méthode, il y a une question de fond. Finalement, qu'est-ce qu'il y aurait à évaluer et qui échapperait à la mesure de l'impact? Ce que nos travaux disent et ce qu'expriment de nombreuses associations et fondations, c'est que la mesure d'impact réduit le réel. Elle observe les associations au prisme des projets, des résultats des actions et des chiffres. Mais elle ignore très largement les processus invisibles qui produisent la valeur associative. C'est dire que ce qui échappe à l'impact, c'est justement ça, c'est la valeur immatérielle des associations. C'est des modes de gouvernance partagés, de l'engagement bénévole, de l'ancrage territorial. C'est la capacité à coopérer, à innover, à porter des nouveaux récits de société. Et puis, c'est d'offrir des espaces de délibération et de lien social. Toutes ces contributions essentielles à la société et à la démocratie sont gommées par l'impact. Alors là aussi, des approches alternatives existent. Par exemple, l'Institut soutient une méthode innovante du GREUS, le groupement de recherche sur l'évaluation de l'utilité sociale. C'est une méthode qui regarde une chose essentielle, la valeur qui se construit dans la relation. Et pour ça, on va analyser les transformations qui s'opèrent dans le temps, dans les relations entre l'association et ses parties prenantes. Et quand on commence à comprendre ce que l'on a transformé des perceptions des habitants, de la confiance en soi des bénéficiaires, des pratiques professionnelles de ses partenaires ou encore des politiques publiques qu'on a pu inspirer, là on parvient à mettre des mots sur notre capacité de transformation sociale. Le grand avantage d'une méthode comme celle-là, c'est qu'elle répond à un besoin qui aujourd'hui n'est pas couvert par la mesure d'impact. Elle pense l'évaluation comme un outil d'apprentissage collectif, et pas simplement pour rendre des comptes, mais pour dégager le sens profond du projet associatif et pour piloter la valeur produite par l'association. Pour terminer, moi, cette question, comment on pourrait évaluer autrement, j'aimerais la partager et l'adresser aux financeurs. Vous, financeurs, les outils que vous avez demandés depuis 15 ans ont produit de la réduction. Les associations attendent aujourd'hui une évaluation qui rende justice à la transformation qu'elles portent. Vous êtes aujourd'hui encore les architectes et les prescripteurs du cadre évaluatif. Vous pouvez les y aider. Et aujourd'hui, c'est un enjeu qui est devenu vital pour elles. Parmi vous, peut-être qu'il y a des représentants de la philanthropie stratégique, de la philanthropie systémique, de la philanthropie de la confiance. Parmi tous, vous avez sans doute une responsabilité d'éclaireur pour que demain, on évalue en miroir de ce que l'on devrait financer, pas uniquement des projets, pas uniquement de la performance, mais plutôt les conditions de la transformation qui passent largement par leur valeur immatérielle. Je vous remercie.
Bon, remercions.
Merci, monsieur le procureur. Merci, Florian Covelli. Elle est pour l'évaluation d'impact, vous l'aurez compris. Elle est experte, elle s'appelle Élise Leclerc et elle est la directrice et cofondatrice du laboratoire d'évaluation et mesure d'impact social et environnemental de l'ESSEC. Élise a coécrit le livre La mesure d'impact, sorti chez Dunod en mars dernier, et elle a cofondé le laboratoire évaluation et mesure d'impact social, EMIS, merveilleux, Élise, EMIS, tout le monde l'aura eu, de l'ESSEC. Le labo EMIS promeut et diffuse la connaissance de l'évaluation d'impact à travers des projets de recherche-action et la direction de l'Observatoire de l'évaluation d'impact en France. Ce rôle, il s'inscrit dans son parcours en relation avec l'innovation sociale et la recherche à l'international depuis 25 ans. J'appelle à la barre Élise Leclerc, notre deuxième témoin, un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît.
Madame, merci d'être avec nous ce soir, même si j'ai cru comprendre que vous étiez plus ou moins chez vous. Conformément aux données de votre laboratoire, que votre laboratoire a collectées, pardon, pouvez-vous nous démontrer en quoi les reproches qui sont faits ce soir à l'évaluation d'impact sont erronés ou à tout le moins exagérés?
Alors, donc il y a un certain nombre d'éléments qui viennent d'être partagés. C'est particulièrement intéressant de savoir que des choses qu'on oppose à l'évaluation d'impact sont exactement ce qu'elles tentent à faire. Au laboratoire EBIS de l'ESSEC, on a donc créé cet observatoire de l'évaluation d'impact social en France et on mène depuis plusieurs années un panorama de l'évaluation d'impact et on a donc un certain nombre de données. Comme vous l'avez dit, moi j'ai travaillé à l'international avant. Je trouve ça particulièrement intéressant de voir qu'en France, il y a autant de débats autour de l'évaluation d'impact. Sur le côté du coût de l'évaluation d'impact social, en effet, c'est une nouvelle discipline. C'est quelque chose qui requiert un minimum d'expertise. Il y a cependant un grand nombre de ressources gratuites. Certaines de l'ESSEC de très bonne qualité, mais d'autres acteurs aussi, en toute objectivité, qui sont en ligne et pour lesquels les acteurs peuvent se former. Les formations en France sont chères, certes, parce qu'il n'y a pas de financement de formation à la mesure d'impact, mais dans d'autres pays, elles existent. Et donc, ça peut faire partie des éléments que des financeurs pourraient prendre en compte pour aider les acteurs justement de financer, de subventionner des parcours de formation. Et il faut savoir que quand on demande aux organisations combien elles dépensent en évaluation, en moyenne, entre 8 et 10% de leur budget annuel, il faut savoir que les entreprises dépensent en général entre 15 et 20% de leur budget annuel uniquement en communication. À voir où on met les priorités de son budget pour les organisations. Sur les autres chefs d'accusation, sur le côté apprentissage, etc., la mesure d'impact, justement, son objectif, c'est qu'elle devienne un apprentissage pour les organisations et que, au lieu d'être un élément de reporting imposé par les financeurs, eh bien, qu'elle puisse aider les associations, les organisations à comprendre leur impact. Donc, on a mené un certain nombre de panoramas et on a demandé aux acteurs, justement, s'ils s'engageaient dans la mesure d'impact social. Et depuis 2021, on voit une augmentation année après année du nombre d'acteurs qui s'y engagent. Est-ce que c'est parce qu'ils y sont forcés et parce que, justement, on leur impose, on leur a posé la question en toute transparence, justement, pour mieux comprendre si ces reproches étaient fondés. À partir de ces données, ce qu'on a appris en 2025, donc données très récentes, trois principaux éléments sur ce contrôle et ce sentiment de vassalisation. Quand on a demandé ce qu'évoquait la mesure d'impact social aux acteurs, 92% ont dit que ça leur permettait de se sentir fiers par rapport à leur travail. Donc tous les sujets de quête de sens pour toutes les organisations, finalement la mesure d'impact social, elle permet d'y répondre. Ils ont aussi répondu à 87% que ça leur donnait de l'énergie, ce qui est important vu les enjeux auxquels on fait face. Et pour terminer, on leur a demandé quelle était la première raison pour laquelle ils s'étaient engagés dans une mesure, alors qu'il y a quelques années, c'était d'abord des demandes des financeurs. Maintenant, en 2025, la première raison, c'est comprendre leur impact. Donc pour moi, on est vraiment sur une question de compréhension et l'évaluation d'impact, elle va être un levier de compréhension, en tout cas c'est ce que nous disent les acteurs à travers les statistiques, plutôt que de vassalisation.
Merci beaucoup, madame. Merci.
Merci beaucoup. Nous accueillons maintenant les experts après avoir eu les témoins, pardon, je pense aux experts. Nous accueillons maintenant les témoins pour deux témoignages. À la barre, le premier témoin, il est contre l'évaluation d'impact. Il s'appelle Thomas Bozo. Il est le fondateur de Barnabé.io, start-up qui proposait une plateforme d'éducation thérapeutique des patients en maladies chroniques et des coordinations des soins. Monsieur Bozo, vous allez vous faire interroger d'abord par monsieur le procureur et ensuite par l'avocate à la défense. Vous pouvez prendre place. Merci beaucoup.
De marche que ma contradictrice à faire pour venir vous interroger. J'aimerais que ce soit noté au procès-verbal. Moi, je suis très, très heureux de vous recevoir et en même temps un peu triste. On va découvrir votre histoire. Finalement, vous êtes témoin, mais victime même de l'évaluation d'impact ce soir. Et donc, c'est avec beaucoup de compassion qu'on vous reçoit. La présidente du jury a bien parlé au passé pour parler de Barnabé. Voilà, je voulais que vous nous parliez un peu de comment vous avez rencontré l'accusé, cette fameuse évaluation d'impact, et de ce que cet accusé vous a fait.
Alors, bah, c'est quelqu'un que j'ai rencontré un peu par hasard, un matin où on m'a proposé d'ailleurs de participer à Entropia Essex. C'est mon ancienne cofondatrice qui m'a dit: Viens, on fait Entropia, c'est génial, on va apprendre à mesurer notre impact. Et donc, c'était quelque chose que j'avais l'impression de ne pas connaître. J'ai découvert après, je le connaissais depuis bien longtemps finalement, je vais y revenir, mais j'avais l'impression de ne pas connaître et j'ai découvert un univers où j'ai rencontré plein de gens idéalistes qui venaient pour mener des projets avec des valeurs sociales derrière, qui voulaient faire du lien. On a parlé qui étaient des associatifs, des entrepreneurs, mais qui en tout cas voulaient, j'ai envie de dire, changer le monde à leur manière, et donc voulaient aider leur prochain. Et puis je me suis dit, bah, super, c'est un endroit magnifique. Et avant de découvrir que finalement derrière tout ça, il y avait une bureaucratie de l'impact. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement des méthodes qui étaient appliquées au cordeau pour finalement, avant tout, et je suis désolé malheureusement de vous contredire, mais justifier de financement. Et c'était quand même le nerf de la guerre. Donc moi, je peux témoigner d'une chose, c'est que mes bénéficiaires et nous-mêmes, on n'a jamais eu, en tout cas, la question de se poser, est-ce qu'on a, quel est notre niveau d'impact? Voilà, on était encore une fois idéalistes, on était là pour faire quelque chose, pour porter quelque chose. Et on nous a demandé de justifier pourquoi on était idéaliste. Et ça, c'était la première chose. La deuxième chose qui m'a, dans la rencontre, qui m'a surpris, c'était un discours dans cette bureaucratie. Et ce discours me disait quelque chose. Et ça m'a rappelé des vieux cours sur de balance scorecard, d'autres boucles de rétroactivité entre input, output, outcome. Mais sauf qu'on a rajouté impact à la fin. Et c'était voilà, une boucle magnifique, merveilleuse. Et donc, je me suis dit, mais ça me rappelle vaguement quand même des cours de performance que je faisais en. Alors, à l'époque, à l'IEP, mais en gros en business school. Et je me suis dit, c'est étonnant quand même, pourquoi on parle d'impact à l'ESSEC? Je suis quand même dans l'antre, voilà, justement de la performance, de la formation à la perfection. Je trouvais ça étonnant. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que finalement, cet ami de départ était une manière de faire rentrer des ronds dans des carrés en permanence. Je retrouvais ce que me disaient, ce que me témoignaient des artistes quand ils allaient chercher des financements auprès des financeurs publics, dans des mondes associatifs, en disant, bah, en fait, je suis obligé de créer tel type d'œuvre parce qu'en fait, c'est une commande ou en tout cas, c'est, voilà, il faut. Et donc, je me retrouvais moi-même à essayer de faire rentrer des choses dans des cases qui n'existaient pas. Et puis, bah, comble de tout ça, c'est la levée de fonds. Donc, moi, je suis un entrepreneur à l'origine. Alors, il y a un autre procès intéressant à faire, ce serait celui de l'innovation, mais ce ne sera pas pour ce soir. Et des budgets de l'innovation et de la BPI, bref. Et là, je me suis retrouvé face à des financeurs. Alors, j'ai quelques anecdotes assez marrantes à vous raconter. Amis financeurs, vous êtes nombreux apparemment ce soir, mais. Quand vous faites une levée de fonds, vous faites un roadshow, et donc, vous vous retrouvez face à des VC ou à des représentants de fonds corporate, de fonds VC traditionnels, de fonds, etc., etc. Et ils vous exposent tous leur thèse d'invest. Et je vous assure que quand vous êtes face à des investisseurs d'impact, c'est magnifique, puisque systématiquement, dans leur thèse d'invest, vous avez tout le langage justificatif qu'ils ont visiblement eux-mêmes vis-à-vis de leur LPs et ou de leur groupe pour justifier de leur propre existence dans cet univers-là. Donc vous l'écoutez avec attention, vous regardez bien, vous rentrez bien dans les bonnes cases de l'impact qui est attendu pour vous. Et parfois, vous avez des petites surprises et le naturel revient au galop, c'est-à-dire que parfois, vous avez la surprise d'entendre, après 5 minutes de pitch, voilà, et vous-même, vos 10-15 minutes de pitch, d'avoir la feedback, dire, mais où est-ce que tu gagnes de l'argent avec ça? Première réponse qu'on m'a faite une fois sur un pitch, après m'avoir fait une logorée vraiment d'impact pendant 5-7 minutes, c'était vraiment leur raison d'être, ils étaient là pour ça, etc., etc. Et je trouvais ça intéressant d'avoir ça comme premier feedback. Et où, dans des due diligence, finalement, je pensais avoir tout vécu dans les due diligence, mais quand vous en arrivez à devoir présenter votre impact en due diligence et expliquer des impacts indirects, ça devient vraiment très compliqué. Ça ne rentre pas dans les cases. Un Excel, c'est en deux dimensions. Et un impact indirect, on a beau dire ce qu'on veut dans les méthodologies, c'est très compliqué à faire comprendre. Et donc, j'étais obligé de justifier du fait que finalement, aider des médecins dans mon métier, ça aurait de l'impact. Je veux dire, enfin, ça, c'est de justifier l'évidence. Et on me disait, mais attendez, comment ça? Mais prouvez-moi que vous allez aider les patients. Mais je ne peux pas, en fait. Il faudrait que je fasse une étude clinique sur 12 ans, etc. Bon, je rentre dans un autre type de. Voilà. Et donc, on en vient à marcher sur la tête. J'en suis maintenant à ce stade à me dire, en fait, j'aurais peut-être pas dû prendre ce chemin-là, j'aurais peut-être pas dû rentrer dans ces cases-là, et j'aurais peut-être dû suivre le chemin assez classique, d'une levée de fonds assez classique, où je prouvais juste que je faisais du business, et sortir de cette bureaucratie de l'impact, où il faut justifier l'injustifiable pour des gens qui sont idéalistes. J'ai beaucoup parlé sur cette question, je ne sais pas si vous avez les notes, mais juste pour appuyer ça, vous dire quand même que quand vous demandez ça à des personnes qui sont encore en face de vous, encore une fois en face de vous, qui sont idéalistes, vous leur demandez de prouver parfois l'impossible et que tout projet qui a une valeur sociale n'a pas forcément de l'impact. Je veux dire, demain, si vous allez aider une personne dans la rue, une vieille dame, et vous la relevez, on ne va pas mesurer ce que vous avez fait, quoi. Et donc, à partir de là, en fait, avoir ce sentiment de se dire, en fait, tout doit être mesurable. Je pense que vous vous trompez de chemin et que vous perdez l'essence, et je rejoins ce qui a été dit par monsieur l'expert juste avant moi, vous perdez l'essence même de ce qui est un projet social et de ce qui s'appelait jusque-là la philanthropie, mais ça, c'est un autre débat.
Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à l'avocate. Je veux dire qu'on voit très bien comment, à vouloir lever des fonds, on peut finir par le toucher. Et c'est absolument parlant. Et juste par attachement à la vérité, je tenais à dire que sur les tableaux Excel qui sont tenus, on peut faire des tableaux croisés dynamiques. En
J'y ai
fait, on
pensé
fait
en.
des voilà.
Arguments, mais bon. Ça reste limité en
La
termes.
vérité est importante en matière judiciaire.
Merci.
Monsieur le procureur, vous voyez, moi aussi, je marche jusqu'à vous. J'espère également que ce sera noté dans le procès-verbal. Monsieur Bozo, ne vous y trompez pas, la défense pleure aussi la perte de Barnabé. Mais comme ce procès doit avoir nécessairement un impact, j'aimerais que vous nous disiez dans quelle mesure l'évaluation d'impact aurait pu vous être utile et que conseilleriez-vous aux entrepreneurs sociaux avec votre expérience.
Alors là, pour le coup, je vais parler au nom des entrepreneurs et c'est ce que je leur dis, c'est que c'est une stratégie de financement, l'évaluation de l'impact, hein, soyons clairs. Je suis désolé de le dire, mais encore une fois, quand vous menez un projet qui a du sens, de toute façon, vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous le justifier et vos bénéficiaires enfin, n'ont pas grand-chose à faire, en tout cas de mon témoignage empirique, hein, purement empirique. De tout ça. Donc c'est une stratégie de financement que vous décidez de prendre ou pas. Et donc il y a des projets, c'est un peu comme les stratégies d'innovation par ailleurs, des projets qui nécessitent potentiellement de passer par là. Et c'est d'ailleurs ce que m'avait dit à l'époque, je ne devrais pas le dire, mais la personne qui m'avait accompagné chez Entropia, c'est en fonction de la stratégie que tu as de financement, choisis les types de financeurs, parce que dans l'impact aussi, vous avez myriades de financeurs, de la fondation au fonds corporate, en allant jusqu'à ceux qui portent des fonds impact. Voilà. Donc, bah, réfléchis bien à ça, déjà. Et puis, si tu n'as pas besoin de financement parce que tu arrives à avoir une activité qui, voilà, ne va pas là-dedans. Et point barre. Et tu es ton propre maître, j'ai envie de dire, dans la maîtrise de l'impact, entre guillemets, que tu peux avoir, de la mission que tu poursuis. Et voilà. Et autre chose, je me permets aussi de donner un feedback, justement. J'ai planté une levée de fonds, hein, vous l'aurez compris, donc j'ai un peu les nerfs contre les financeurs. À la term sheet. Bref, les financeurs impact j'ai envie de dire, mesurer votre propre impact. Alors vous allez me dire, oui, on le fait déjà, mais pas forcément. C'est-à-dire mesurer l'impact que vous faites sur les personnes que vous avez en face de vous. C'est ça que vous oubliez peut-être une fois de temps en temps. C'est-à-dire que pour faire rentrer des ronds dans des carrés et pour vous assurer que tout ce qui se passe bien et que vous allez pouvoir renvoyer à vos LPs, à vos DG, à votre COMEX, un certain nombre d'éléments, vous oubliez qu'en face de vous, vous avez des personnes qui sont idéalistes. Ce ne sont pas des entrepreneurs comme les autres que vous avez en face de vous. Et donc potentiellement, et ça je vous le dis pour l'avoir, alors moi ça va, tout va bien dans ma vie, je vous rassure, merci monsieur le procureur, mais pour l'avoir vécu, il y a des gens qui sont broyés par ces retours où en fait on va leur expliquer que finalement, ils n'ont pas vraiment l'impact qu'on attendait d'eux. C'est faux. C'est vous estimez dans votre grille que ça ne correspond pas à un impact attendu pour vous, pour répondre à vos LPs. Voilà. Il faut remettre les choses, l'église au milieu du village un peu. Et donc, je pense que c'est vraiment important que vous fassiez aussi un peu votre autocritique et vous mesuriez un peu aussi l'impact que vous avez, mais sur la vie des gens que vous avez en face de vous.
Merci, Monsieur Bezeau. Nous notons que les prochains procès sont celui donc de l'innovation et des financeurs.
Et la
Je n'ai
BPI.
pas plus de questions.
Merci beaucoup. On est vraiment au cœur du procès, là. Ça fait vraiment plaisir. J'appelle à la barre désormais le second témoin qui est pour l'évaluation d'impact. Comme dans un procès, il y a du contre, il y a du pour, il y a de la nuance. Finalement, tout est gris et c'est merveilleux. Il s'appelle Olivier Arnaud Blanchard. Il est le fondateur et CEO de L'Inclusion, dont la mission est de développer des services pour les travailleurs indépendants handicapés, les entreprises et globalement l'écosystème du handicap. Vous recevrez une question d'abord de Monsieur le procureur et ensuite de Madame l'avocate à la défense. Merci d'accueillir.
L'inverse, d'accord. Eh bien, ce sera l'inverse. Madame l'avocate à la défense.
Monsieur Arnaud Blanchard, vous incarnez l'entrepreneur social par excellence. Vous l'avez remarqué comme moi, veste Patagonia, petite Véja. C'est parfait. Et moi, j'adore, j'adore, j'adore. En vous fondant sur votre expérience à l'inclusion, l'évaluation d'impact n'est-elle pas, selon vous, indispensable et avant tout un outil démocratique?
Bonsoir, merci pour ces questions. Effectivement, pardonnez l'habit partiellement frugal, mais je reviens. J'étais il y a quelques instants sur le terrain avec mes bénéficiaires, les équipes, l'inclusion, et donc je n'ai pas eu le loisir de me revêtir de toutes sortes d'habits. Mais peut-être je peux commencer par juste vous expliquer ce que nous faisons chez l'inclusion, parce que comme l'expliquait mon co-témoin ce soir, nous sommes avant tout des personnes d'action. Donc l'inclusion, nous, notre mission, c'est développer des services surtout pour les travailleurs indépendants handicapés et leur écosystème d'entreprise, etc., etc. Donc on s'adresse à un public oublié des politiques publiques. On est, comme beaucoup d'entrepreneurs sociaux, finalement des combattants d'une société un peu plus juste. On a un modèle hybride, comme beaucoup d'entreprises sociales, avec du financement public et des modèles un peu plus marchands, ce qui rend notre tâche parfois un peu compliquée. Et je m'inscris évidemment en partie en faux par rapport à un certain nombre de choses qui ont été dites, parce que, comme le disait notre excellente experte, en fait, la mesure d'impact, c'est une affaire de choix. Nous, les entrepreneurs sociaux, nous n'avons pas beaucoup de moyens et donc nous faisons des choix. Le choix que nous faisons, c'est d'investir dans la mesure d'impact plutôt que dans du marketing conventionnel. Donc ce choix d'investissement, il est guidé par une exigence, on va dire, pragmatique en partie, parce qu'effectivement, les financeurs attendent ça de nous. Mais de notre expérience chez l'inclusion, on peut très bien aller au-devant des financeurs et leur dire, nous, notre stratégie d'impact, c'est ça. Et en l'occurrence, on pourra parler autant que vous voudrez de celle de l'inclusion. On a défini pour notre public sept types d'impact supposés et recherchés qu'on a croisés par activité, etc. Donc la mesure d'impact répond à une exigence. On a été formé à bonne école. Dans une institution
qui nous accueille aujourd'hui. Voilà, c'est un choix. C'est un choix stratégique, mais c'est aussi un choix éthique. Parce qu'en fait, plutôt que d'investir dans des plaquettes RSE en papier glacé, on fait le choix d'expliciter notre activité, ce qu'on veut faire, chiffres à l'appui, méthode transparente. Et donc, c'est ça, la mesure d'impact aussi. Là où mon co-témoin parle de performance, moi, je parle de transparence. L'entrepreneur social, il est financé par beaucoup d'argent public. Et donc, il doit la transparence. Donc, voilà, mesure d'impact, pour nous, c'est une aventure, c'est une affaire en grande partie de transparence, de méthode, cartographie de parties prenantes, analyse des effets durables recherchés, analyse de l'attribution. Celles et ceux d'entre vous qui connaissent ce sujet savent que la mesure d'impact, ce n'est pas du doigt mouillé et que c'est une affaire quand même relativement sérieuse. Voilà. Mais ensuite, pour aussi aller dans le sens hein, de ce que nous ont dit nos contradicteurs du soir, je pense que probablement que l'on conviendrait toutes et tous que nous, en tout cas, chez l'inclusion, on est convaincus que la mesure d'impact du futur, c'est une mesure d'impact qui répond à une gouvernance un peu plus démocratique. Hein. Nous, on a la conviction qu'il y a quelque chose de tripartite à aller chercher dedans. Une mesure d'impact qui ne répondrait pas à la fois à ce que le bénéficiaire veut mesurer, l'opérateur, l'entrepreneur social et le financeur, donc trois parties. Je pense qu'une mesure d'impact qui échouerait à faire preuve d'une certaine pluralité démocratique échouerait fondamentalement. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. On ne peut pas effectivement se laisser dicter la mesure d'impact par un financeur. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, je suis d'accord, enfin, on n'aura pas le loisir de le faire parce que nos équipes sur le terrain le vivent tous les jours. Hein. La première question qu'on se pose le matin, je vous rejoins, ce n'est pas mon Dieu, comment je vais mesurer l'impact? On n'est pas un influenceur Instagram qui a réfléchi à la photo avant de réfléchir à l'activité. Hein. Nous, on agit d'abord et on prend les photos après. Et donc, c'est là-dessus que je voudrais terminer un message pour tout l'écosystème. Une mesure d'impact trop imposée, c'est une mesure d'impact vouée à l'échec parce que les équipes de l'économie sociale, notoirement moins payées que le secteur marchand, ne l'accepteront pas. Donc, il faut une mesure d'impact responsable et démocratique.
Merci.
Je tiens d'abord à interpeller quand même l'attention du... Il marche ? Oui, il marche. L'attention du jury, ce que fait ma contradictrice en appelant son témoin entrepreneur social par excellence, c'est d'abord tenter de délégitimer le mien, qui n'est pas moins un excellent entrepreneur social et qui d'ailleurs porte des converses en tweed. Ce qui, je crois, dit beaucoup. Trop. Pour venir quand même au sujet, le modèle d'évaluation d'impact que vous défendez et qui certainement fonctionne très bien pour vous, vous pensez vraiment qu'on peut le plaquer, l'appliquer à toutes les organisations dans leur diversité?
Probablement pas au sens où vous l'entendez, mais sans doute faudrait-il que vous vous éduquiez. Parce que
j'ai fait beaucoup d'études déjà.
Furent-elles les bonnes?
Il faudrait que je vous présente mes parents qui vous aimeraient beaucoup.
En tout cas, la formation continue existe dans nombre d'institutions, mais je ne veux pas plagier ce procès par de la publicité. La mesure d'impact est affaire d'adaptation, effectivement. Je pense que là-dessus, on sera certainement toutes et tous d'accord. C'est une affaire d'adaptation au contexte. C'est une affaire d'émancipation aussi par rapport à des carcans que le pouvoir voudrait imposer. Et donc, à chaque partie prenante d'agir de manière responsable. Ce qui est vrai, c'est qu'une bonne mesure d'impact prend du temps.
Nous, chez l'inclusion, on a entre guillemets la chance d'être une entreprise sociale et d'être éligible, par exemple, au crédit d'impôt recherche qui nous a permis de financer beaucoup de travaux sur la mesure d'impact social. C'est clair que tout le monde ne peut pas le faire puisque c'est un détail technique qui peut vous paraître être un détail mais qui n'en est pas un. Le monde associatif n'est pas encore vraiment éligible à ce type de financement. Donc il y a des questions d'équité face à la mesure d'impact qui sont des vraies questions fondamentales, politiques. Voilà. Donc voilà, moi je considère que la mesure d'impact est une affaire de réflexion, de recherche, d'adaptation et de revendication. Je pense que les entrepreneuses et entrepreneurs sociaux doivent revendiquer leur vision de la mesure d'impact. Doivent aussi revendiquer que les bénéficiaires ont voix au chapitre et que ce n'est pas qu'une affaire de grille stricte. Et d'ailleurs, dans la réflexion qu'on doit pouvoir avoir sur la mesure d'impact, il y a la question de son évolutivité. L'impact d'une décennie ne sera pas l'impact de celle d'après. Évidemment, sans vouloir rentrer dans des poncifs, je pense que l'irruption de l'intelligence artificielle dans nos activités fait que ce qu'on va vouloir faire en 2030 sera peut-être pas la même chose que ce qu'on faisait en 2020.
Je vous remercie.
Témoins, maintenant que les choses sont posées, nous allons pouvoir écouter les plaidoiries. Et pour commencer, Dominique Abbas du ministère public, on vous écoute maintenant.
C'était bien la peine de m'asseoir. Madame la Présidente, mesdames et messieurs de la Cour, mesdames et messieurs les jurés, vous toutes et tous finalement, le procès de ce jour me laisse un goût amer. Et ce n'est pas le goût du quinoa éco-sourcé cultivé par des détenus en réinsertion professionnelle qui vous sera servi dans un instant. C'est quelque chose de bien plus grave. D'abord, un goût de partialité. Nous faisons en effet le procès de l'évaluation d'impact dans le temple même de sa mesure. L'ESSEC, en effet, a joué un rôle majeur dans l'émergence depuis la fin des années 2000 de l'évaluation d'impact social. L'accusé joue donc ici à domicile. Et d'ailleurs, ne faites pas semblant, vous avez toutes et tous passé 5 minutes au début du procès à applaudir des gens qui n'avaient pas encore parlé, ce qui montre bien une sorte de connivence. Ensuite, un goût de fashion, de trucs à la mode. Et vous noterez à ma tenue vestimentaire, une fois que j'aurai enlevé cette robe, sous laquelle c'est promis je porte quelque chose, que je n'aime pas être à la mode. D'ailleurs, quand la présidente du tribunal disait ce procès ne ressemblera à rien, elle voulait dire le procureur ne ressemblera à rien. Le panorama 2025 de l'évaluation d'impact, ne riez pas, c'est sérieux, s'il vous plaît. Le panorama 2025 de l'évaluation d'impact, réalisé par l'ESSEC, comme par hasard, montre en effet que l'immense majorité des structures s'y sont engagées il y a 3 à 5 ans, grand maximum. Et d'ailleurs, en parlant d'évaluation, nous faisons ce soir le procès d'une minorité. Dire, comme le dit le panorama, que 78% des structures de l'ESS sont engagées dans une démarche de mesure d'impact, c'est à peu près pareil que dire que 85% des unijambistes n'ont pas couru de marathon cette année. Mais, puisqu'il faut bien s'occuper un froid mercredi soir de décembre, et que mon conseiller d'insertion et de probation m'a dit que je retournais en cellule si je ne venais pas, et que je n'en peux plus de Nicolas, ce soir, j'accuse. J'accuse l'évaluation d'impact d'être opaque et chère. Je l'accuse d'entraîner un glissement collectif de la mission vers le financement, néfaste à la société. Je l'accuse de n'être qu'un outil de vassalisation, ainsi que cela a été dit, au profit des forces de l'argent, au détriment des acteurs de la transformation sociale. Et tout cela, les témoins, les acteurs l'ont bien mieux dit que je ne pourrais vous le dire avec ma très faible formation académique. Mais je voulais quand même y revenir. D'abord, l'évaluation d'impact social est opaque. J'ai voulu, en préparant ce procès, lire, comprendre ce qu'elle était. J'ai lu tous les livres qui existent sur le sujet. J'ai lu des thèses. J'ai écouté des podcasts qui sont excellents et qui sont disponibles sur le site du CISE. Je suis payé pour dire ça. Si j'ai vaguement compris ce que était l'évaluation d'impact, je ne sais toujours pas comment on fait. Et elle garde à mes yeux une sorte de mystique éternelle, comme un lapin qu'on sortirait du chapeau, puisque chaque évaluateur, en fait, est libre de définir ses propres critères, ses propres périmètres, ses propres barèmes, selon qu'ils soient d'un côté ou de l'autre. Le tout dans un jargon qui m'a fait me demander si on parlait d'entrepreneuriat ou d'exploration spatiale. J'ai voulu à ce moment-là vous en lire un extrait et puis je me suis rappelé que certainement que vous le comprendriez, contrairement à moi. Et donc je vous en épargne la lecture, mais vous savez, cette impression très forte quand vous lisez quelque chose, que vous avez l'impression d'avoir tout compris, mais que vous ne savez pas ce que vous avez compris. Voilà. Ensuite, l'évaluation d'impact social est chère. Elle n'est pas très chère, n'exagérons pas, moins certainement que la dignité de l'avocat de la défense, ainsi qu'elle ne manquera pas de vous le faire savoir dans une poignée de minutes, cher juré. Mais oui, si vous avez l'impression que je parle trop, rappelez-vous que je suis la seule chose qui vous sépare de ce qui ne sera certainement qu'un énième charabia novlanguien, mélange de termes accrocheurs, de notions floues. Mots en anglais, Startup Nation, tout ça. Pour revenir donc au coût de l'évaluation d'impact, oui, elle n'est peut-être pas si chère, enfin, tout de même 10% du budget. Elle reste trop chère à une époque où le moindre euro compte, où les financements se font rares, où la puissance publique réduit la voilure et où les acteurs privés croient plus facilement au profit qu'au bien commun. Et à l'instant, Olivier venait de dire que le crédit impôt recherche finance l'évaluation d'impact. Peut-être devrait-elle davantage financer l'action, puisque les budgets fondent, les dizaines et les centaines de milliers d'euros, les millions parfois d'euros perdus à évaluer plutôt qu'à agir, que ce soit par orgueil finalement pour donner du sens, on l'a dit, ou pour donner de l'énergie, voilà, des vitamines C par exemple pour donner de l'énergie le matin, ou par quête d'approbation financière, sont autant d'argent qui ne va pas là où il serait le plus utile, au service du changement. Mais évidemment, cher juré, l'évaluation d'impact a d'autres inconvénients que d'être cher et incompréhensible. Sinon, nous ne ferions ce soir pas son procès, mais celui de Marianne, l'avocat de la défense. Camus disait que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. C'est ce que risque de faire l'évaluation d'impact. Le temps, d'abord, nous fuit et nous manque. L'évaluation d'impact prétend mesurer l'impact, lequel? Comment voir en quelques semaines des changements qui prennent des années, des décennies, des générations et qui sont tellement fragiles que parfois il suffit d'une seconde d'inattention, d'une seconde de désintérêt de l'action publique et de l'action associative et entrepreneuriale pour nous ramener des années en arrière. Et puis comment voir ce qui ne se voit pas? Ce soir, par exemple, je peux aisément mesurer votre nombre, je peux même mesurer votre satisfaction à l'applaudimètre tout à l'heure. Et je ne saurais jamais ce que vous pensez vraiment, ce qui vous a fait venir ce soir. Et de la même manière, il est impossible, on l'a dit, de mesurer précisément ce qu'est un impact. Comment l'évaluation d'impact pourrait mesurer le travail, par exemple, d'une association qui passe des années sur un territoire, qui tisse des liens humains, qui forge des rencontres, qui construit un réseau, qui agit avec des effets de second, de troisième, de quatrième ordre. Et à l'inverse, comment faire pour déceler les effets pervers d'une initiative, par exemple, d'une entreprise qui, en apparence, serait tout à fait bénéfique? Et si l'effet pervers, nous ne parvenons pas à le mesurer, existe-t-il vraiment? À vouloir tout voir au prisme d'un concept insaisissable, celui de l'impact, à vouloir faire de sa mesure une hégémonie du financement, non seulement nous nous privons de la complexité du monde, mais nous prenons le risque de mal fixer nos objectifs. Si vous voulez prendre, puisqu'on parlait de Barnabé qui fait de la médecine, une figure de « faisons-nous médecins de la société ». Imaginez un chirurgien qui, pour décider ce qu'il va opérer sur vous, prendrait uniquement une grille de lecture fournie par la mutuelle avec des cases toutes faites. Et puis imaginez qu'il se rende compte qu'en fait, il sera mieux rémunéré à opérer un organe plutôt que l'autre. Et en fait, on y est. Nous n'opérons plus les pans de la société qui ont besoin d'aide, mais ceux auprès desquels notre aide est la plus valorisée. Et je crois que, sans rentrer dedans, nous avons tous ici des exemples autour de nous, très précis, d'organisations qui ont transformé des actions, qui ont, voire même en ont créé, uniquement pour rentrer dans des grilles de financement pour continuer à survivre. C'est ce qu'on appelle un « mission drift » en anglais. Et c'est ce « mission drift » qui fait primer l'argent sur le sens réel de l'engagement collectif. Et qui rentre tellement, d'ailleurs, je crois on peut le dire, dans cette dynamique, dans cet ADN, que Olivier finalement nous parlait de ce qui est quasiment un réflexe pavlovien, c'est-à-dire qu'on va mesurer l'impact, et en fait on va se vanter de l'avoir mesuré avant qu'on nous demande de le mesurer, même si en réalité on le mesure tout de même, c'est vrai, on le reconnaît un peu pour les financements. Ce qui m'amène au troisième chef d'accusation, et c'est promis, ce sera le dernier. L'évaluation d'impact ne contribue pas seulement à faire de l'argent à un maître plutôt qu'un serviteur. Elle risque aussi de faire de vos organisations, puisque les financeurs ne sont pas venus ce soir, si certainement qu'ils sont là et je les salue, de vos organisations des vassaux. Et Florian l'a très bien démontré dans sa démonstration. C'est une très belle répétition. Et puis, que vous soyez une entreprise à mission, une association, un acteur de l'ESS, et c'est ce que je disais à l'instant, votre rôle dépasse largement l'impact de vos actions. Un acteur du social, c'est un acteur qui va contribuer au débat public, qui va créer du pouvoir d'agir, qui va transformer des représentations sociales, qui va faire vivre la démocratie locale. Autant de choses qu'il serait absolument vain de vouloir mesurer, mais qui vous rendent essentielles à un territoire et à une société digne et saine. Vous n'êtes pas que des exécutants dont la dépense devrait être lue au prisme d'une prétendue efficience de l'impact. Vous êtes des contributeurs nets de la fabrique de notre tissu commun. C'est très joli. Et puis, j'étais chez Mondial Tissu avant de venir, donc ça m'a inspiré. Sans compter que l'influence croissante de l'évaluation d'impact revient à donner les clés à des acteurs spécialisés dans la mesure, dont évidemment la noblesse des sentiments ne saurait faire oublier qu'ils ont aussi intérêt à prospérer et qui font de l'évaluation d'impact un marché en développement où la mesure rapidement pourrait primer sur l'intérêt de mesurer. L'évaluation d'impact, lorsqu'elle est imposée à des structures par leurs financeurs, crée une asymétrie où la coopération devient une sorte d'éternel reporting de données, parfois sans pertinence. En résumé, dans cette affaire, tout le monde se trompe, sauf moi évidemment. Je sais que nous sommes ici invités par une école de commerce, mais si d'aventure certains ont fait de vraies études, vous avez peut-être entendu parler de Platon. Platon a cette allégorie, cette caverne, cette allégorie par laquelle il écrit l'immense illusion d'un monde extérieur qui ne serait que l'ombre de marionnettes projetées sur un mur que nous regarderions avec l'air hagard d'un inspecteur des impôts perdu à Station F. L'évaluation d'impact n'est rien d'autre que le dernier avatar de cette caverne. Simplement, les indicateurs ont remplacé les marionnettes et les financeurs, les marionnettistes. Voilà. Là, j'ai bien achevé l'essai. Ce n'est donc pas un échec. Je voulais quand même vous rassurer. Oui, public, chéri, mon amour, je vous sens tout tremblant, tout suant, tout anxieux de savoir ce qui va advenir là, maintenant que vos rêves d'évaluation et de mesure, de baromètre, de tableur Excel sont éteints, maintenant que le sevrage a commencé. Je ne vous en veux pas, vous savez, vous avez raison de vouloir trouver du sens, de vouloir créer une dynamique, de vouloir expliquer ce que vous faites, de vouloir comprendre. Qui suis-je? Que sais-je? Que fais-je? À quoi sers-je? Qui est Serge? Autant de questions légitimes auxquelles il est peut-être temps d'accepter que nous n'avons pas toute la réponse. Ensuite seulement, nous pourrons réfléchir à de nouvelles questions, à de nouvelles façons de définir, à de nouvelles façons de mesurer, qui soient conscientes précisément de l'impossibilité de tout mesurer. Et alors, nous pourrons certainement dire que ce sera là le plus grand impact de cette soirée. Je vous remercie.
Merci, monsieur le procureur. La guerre est donc déclarée. L'avocate à la défense s'appelle Marianne Coustie et je vous demande de l'accueillir. Ce soir, vous avez pris part à une importante et novatrice réflexion. Vous avez été témoin de frustration, on vous a parlé de contradictions, de malfaçons, peut-être à raison. Mais ce soir, dans ce qui est d'ordinaire l'antre de la bullshit nation, l'antéchrist de la remise en question, nous nous sommes posé la question. L'évaluation d'impact, oui ou non? Et ce soir, dans cette belle école de commerce, nous aurions dû boire un shot toutes les fois que le mot impact a été prononcé. Mesure d'impact, investissement à impact, société à impact, entreprise à impact, 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 impact. Mais nous serions arrivés à la même conclusion, intacte. Bien sûr que oui, l'évaluation d'impact. Alors, mesdames et messieurs, les membres du jury, chère assemblée, ce soir, je vous propose un pacte. Un pacte de confiance, un pacte d'honnêteté, un pacte d'engagement et de sincérité. Tels sont les mots de l'entrepreneur social. Car je regarde devant moi cette belle assemblée, une belle assemblée de gens bien. Une belle assemblée de femmes aussi, je note, mais suis-je étonnée que les femmes soient majoritaires dans l'entrepreneuriat social? Non. Une assemblée de gens qui, sans s'inquiéter de la bien-pensance, de la bienséance, choisissent tous les matins l'intérêt général plutôt que l'intérêt privé, préfèrent le collectif aux particuliers. Une assemblée de gens engagés. Ici, on place l'humain au centre de son action et on met ses propres biens au service du bien commun. J'ai bien compris que je défendais ce que l'ESSEC produit de mieux en termes de zadistes. Et sincèrement, je me fais quand même la réflexion depuis tout à l'heure, mais il n'y a quand même que les gens bien. Il n'y a que les gens bien pour se dire « je vais évaluer que le bien que je fais est bien fait et en comprendre tous les bienfaits ». Si je fais bien le bien, peut-être que ça pourrait être mieux et en évaluant, ça sera bien mieux, même si c'est déjà bien. Et comme j'aimerais que les gens moins bien que vous évaluent leurs impacts. Ouais, vous savez, là, tous ces gens-là, tous ces gens de la tech, de l'agroalimentaire, le pétrole, enfin, vos anciens camarades de classe, quoi, qui ont choisi les thunes, hein, qui n'ont pas de problème à soulever des financements, des levées de fonds, qui n'ont pas touché le fond, enfin bref. Mais non, nous, les gens bien, on se flagelle et on aime ça. Ce procès, c'est l'évaluation de l'évaluation d'impact. Mais je le constate à regret, c'est en arrivant au bout de la logique que l'on échoue misérablement. On se trompe de cible. En voulant condamner un outil, on provoque une défiance indicible et on place une innocente sur le banc des accusés. J'entends les réquisitions contrariées de monsieur le procureur, qui nous a fait comprendre qu'il aurait dû être en prison s'il n'était pas ici. Voilà. J'entends les déboires du témoin, j'entends les alertes de l'expert. On nous oppose que l'évaluation d'impact est trop chère. Mais ici, l'accusation, monsieur le procureur surtout, semble confondre coût et investissement. Il n'a pas fait assez d'études, assurément. L'évaluation d'impact est un processus itératif, collaboratif, participatif, qui prend en compte l'ensemble des parties prenantes et selon des méthodes différenciées. Qui d'autre mieux que vous pour savoir que le collectif, la pédagogie, la transparence, ça demande du temps, des gens, de l'argent. C'est un investissement, certes, de chaque instant, mais cet investissement, il est utile et le coût qui va avec est le plus utile qui soit. Et si vous ne me croyez pas, peut-être êtes-vous de ceux qui préfèrent voir s'installer l'ignorance plutôt que d'investir l'éducation, qui préfèrent voir s'installer la guerre plutôt que d'investir la paix, qui préfèrent le déni plutôt que la lucidité. Ne pas évaluer, ne pas mesurer, c'est encore piloter dans le vide. Dans le vide et le néant en jetant l'argent par les fenêtres. Tiens, parlons-en de l'argent. C'est un peu le cœur du problème finalement. Mais on n'a pas pensé à faire le procès de l'argent, des financements, des financeurs, des financiers. Mais qu'est-ce que c'est qu'un bon financier? C'est du beurre, du sucre, 3 œufs. Bref, on en mangerait. Des financiers, il y en a dans la salle, je crois, mais ne vous inquiétez pas. On vous cuit un peu, mais on ne vous mangera pas. Bref. Monsieur le procureur, vous qui ne ressemblez à rien et qui, de toute évidence, malgré toutes vos lectures, toutes vos écoutes, vos visionnages, êtes limité intellectuellement, monsieur le procureur accuse encore l'évaluation d'impact d'être un instrument de contrôle, d'être hégémonique et d'enfermer dans un prisme de pensée unique. Et ça fait beaucoup de tare pour un outil qui vous veut du bien. Mais soit, déconstruisons ces méfaits un à un, et c'est maintenant que ma plaidoirie est moins drôle. D'abord, tant que l'on engendrera des fonds publics, excusez-moi, tant que l'on engagera des fonds publics et privés au service de l'intérêt général, il faudra rendre des comptes sur des missions, vérifier des budgets, prouver ses résultats. Ce contrôle, ce n'est pas un luxe superflu, c'est un rempart contre les abus. On nous dit qu'il y a des valeurs créées qui ne peuvent pas être mesurées. Eh bien, changeons certaines unités de mesure. Peut-être est-il temps de valoriser de nouvelles données, d'autres champs de l'entreprise et de la vie associative. On peut évaluer autrement, monsieur Bozo, vous l'avez concédé. Mais ne condamnons pas l'outil. Condamnons les dérives de ses usages. Ensuite, je reviens bien entendu sur l'accusation la plus grave. Celles qui témoignent que ce soir, nous nous sommes véritablement trompés d'accusés. L'évaluation d'impact, outil de domination, l'évaluation d'impact, outil de vassalisation, celles qui transforment les opérateurs en exécutants soumis, celles qui enferment les bénéficiaires dans des indicateurs froids et finis. Et ce procès-là, mesdames et messieurs, le procureur en a lui-même fait l'aveu, ce n'est pas le procès de l'évaluation. c'est le procès du rapport de pouvoir. La vassalisation, ce n'est pas un risque technique, c'est un risque politique. La seule solution valable est celle d'une gouvernance partagée, où la voix de chaque acteur parle de concert. La voix de l'opérateur, la voix du financeur, la voix du bénéficiaire. Aucune ne doit dominer les autres. Aucune ne doit être réduite au silence. Aucune ne doit être prisonnière de l'indicateur de l'autre. C'est la seule solution valable et c'est un pacte d'engagement, d'honnêteté, de confiance et de sincérité. Et jamais de ma vie, vraiment jamais de ma vie, je n'aurais pensé prononcer cette phrase. Mais se battre pour la démocratie, c'est aussi se battre pour l'évaluation d'impact. Mesdames et messieurs les jurés, aujourd'hui, plus que jamais, il vous faudra sauver la démocratie, il vous faudra innocenter l'évaluation d'impact.
Merci à Madame l'avocate de la Défense, Marianne Cousty. Vous l'aurez compris, c'est la fin des plaidoiries. J'invite le jury à se retirer pour aller délibérer pendant moins d'une dizaine de minutes. Et ils peuvent se lever tout de suite et suivre cette porte qui les emmènera vers la salle de délibération et Lola qui vous y rejoindra. Merveilleux. Bon. On vous a entendu, chers témoins, chers experts, chers avocats. Mais maintenant, ce qu'on veut entendre, c'est vous, mesdames et messieurs. Je vous invite à flasher les QR codes qui sont soit sur les côtés, vous en avez sur les côtés aussi, soit juste ici pour rendre votre verdict pour ou contre l'évaluation d'impact. Je vais moi-même voter car j'ai un job à garder. Hop. Et vous remarquerez que parce qu'on est en démocratie, c'est un sondage anonyme. Donc personne ne vous en voudra du vote que vous ferez. Cependant, l'idée est surtout de faire un débat constructif. C'est facile de dire oui, c'est super l'évaluation d'impact. Pardon. On repart. Voilà, on est sur la première page, c'est bon? Je vous invite donc à d'abord voter sur l'innocence ou la culpabilité de l'évaluation d'impact. Trois options. L'évaluation d'impact est acquittée, mais sous condition, comme nous l'a si justement dit Madame l'avocate de la Défense. Elle est condamnée ou elle est 100% acquittée, comme elle l'est aujourd'hui. Je vous invite à prendre part au vote. Je ne peux pas mettre la musique de Qui veut gagner des millions, mais c'est un peu l'ambiance. Nous avons 89 participants. Je pense qu'on arrive au bout et on envoie 1000 baisers à ceux qui nous suivent en ligne et qui sont actuellement en train de voter derrière leur écran. 90 participants, je suis très heureuse, mesdames et messieurs, de vous annoncer que l'évaluation d'impact, sans grande surprise évidemment, est acquittée ce soir. Un tonnerre d'applaudissements pour la Défense, s'il vous plaît. Ils se sont bien battus car, monsieur le procureur, vous écopez quand même de 12 votes sur 90. Et ça veut dire que vous en avez convaincu quand même certains. Mais la subtilité, évidemment, de ce résultat, c'est que c'est acquitté, mais sous condition. Et donc, l'idée est de voir ensemble quelles conditions nous pourrions voir pour l'évaluation d'impact. Il me semble que c'est l'objet de la deuxième question. Acquitté, oui, mais à condition que. De la même manière, je vous invite à voter, à prendre part au débat. Vous pouvez voter pour trois mesures, pour vous les trois mesures phares, pour faire en sorte que l'évaluation d'impact soit mieux contrôlée. Et je vais les lire pour s'éviter ce silence fort boyaresque. Et nous avons déjà une réponse en tête, vraiment l'impression d'être Nagui, de n'oubliez pas les paroles. Mais voilà, j'adore ça. Elle intègre la parole qualitative des utilisateurs, clients ou bénéficiaires finaux aux côtés des indicateurs quantitatifs. Extrêmement intéressant, en effet. Son objectif premier soit d'aider les équipes à comprendre, piloter et améliorer leurs actions avant toute exigence de reporting extrême.
J'ai dit quoi? Externe, oui, voilà. Ce n'est pas la même chose, donc c'est important de le dire. Qu'elle s'appuie sur une démarche rigoureuse, et vu que ça bouge en même temps que je lis, c'est merveilleux. Qu'elle s'appuie sur une démarche rigoureuse et proportionnée aux enjeux de l'organisation, afin de ne pas passer plus de temps à mesurer qu'agir. Être Nagui est un métier. Ouais, merci beaucoup, Olivier. Mais du coup, j'ai pas la même dynamique là. Qu'elle participe aux prises de décision stratégiques des organisations au même titre que des indicateurs de performance économique. Qu'elle tienne compte du temps nécessaire pour que des effets sociaux se produisent sans exiger des effets immédiats. Et voilà, vous êtes tous en train de voter. Je ne vous dirai pas le vote d'Olivier, mais il est très surprenant. Il me semble qu'un top 3 se dégage assez facilement. On va vous laisser, on a 55 participants, on va monter jusqu'à 65 parce qu'on est extrêmement ambitieux. Ça arrive. Et nous avons atteint les 65 participants, n'est-ce pas? Merveilleux. Alors, la première largement en tête, que son objectif premier soit d'aider les équipes à comprendre, piloter et améliorer leurs actions avant toute exigence de reporting externe et non extrême. Deux, qu'elle intègre la parole qualitative des utilisateurs aux côtés des indicateurs quantitatifs, extrêmement intéressants. Elles tiennent compte du temps nécessaire pour que des effets sociaux se produisent sans exiger des effets immédiats. Voilà trois mesures intéressantes. Est-ce que quelqu'un a un mot là-dessus? Est-ce que quelqu'un veut réagir en direct, au plateau, en antenne, sur ces mesures? Même si les nombres de participants ont augmenté, on reste sur les mêmes choses. Est-ce qu'il y a une slide après où on s'arrête là? Merveilleux. Jérôme, hop, je vous mets sous le bus et je vous demande tout de suite, est-ce que pour vous, il y a une mesure qui est très parlante? Et facile à faire surtout.
Alors, c'est vrai que moi, j'ai voté pour la première aussi, c'est bien. J'aime bien la première. C'est vraiment de se dire, et ça a été mentionné par nos excellents témoins, mais que c'est un outil pour l'organisation, que ce n'est pas pour faire une photo qu'on va accrocher dans un musée, mais qu'effectivement, ça va servir à prendre des décisions, parce que je lis derrière le mot piloter. Donc, choisir des choses, orienter l'action de l'organisation. Ça me parle particulièrement, et ça veut dire que c'est un outil. Peut-être pas quotidien, mais en tout cas très qu'on utilise fréquemment.
Merci Jérôme. Maintenant, nous allons demander à ceux qui nous ont témoigné. Est-ce que, Olivier, vous pensez qu'il y a une mesure qui est plus forte que les autres, vous qui êtes entrepreneur social?
Non, je pense que tout ce qui est listé là est tout à fait pertinent. Et ouais, voilà, donc. Très convaincu.
Merci Olivier pour cette prise de parole. Ça a vraiment renforcé le débat, ça fait plaisir. Est-ce que Thomas veut dire un mot à ce sujet? Thomas, il ne faut pas lui laisser le micro trop longtemps maintenant que c'est acquitté.
Non, moi je suis assez d'accord avec le ranking là qui apparaît. Et moi j'ajouterais peut-être deux choses. C'est que je pense que c'est intéressant de vraiment s'interroger sur, c'est peut-être le premier point, cela dit, sur la réflexivité de l'impact, enfin, des personnes qui demandent à avoir de l'impact, qui se posent la question de pourquoi ils le demandent, et de voilà ce que j'évoquais tout à l'heure. Et puis aussi un point que j'ai peut-être oublié, mais se poser un peu aussi la question de la sociologie des personnes qui de l'impact, c'est-à-dire de. J'ai rencontré, enfin, beaucoup d'acteurs que j'ai rencontrés qui étaient très à l'aise dans cet univers-là venaient étonnamment du conseil ou de la banque d'affaires ou de choses comme ça. Donc c'était peut-être, voilà, il y a peut-être des questions à se poser sur qui a facilement accès à ces méthodologies.
Merci beaucoup. Ah, Olivier, ça y est, c'est dit.
Parce que j'attendais que tu dises des trucs intelligents, ça m'a inspiré, ça super. Non, j'attire l'attention sur le point qui est classé en dernier. Parce qu'en fait, le point, c'est sur les moyens financiers. Et en fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs sociaux qui vont dire mesurer, OK, mais avec quels moyens? Et le fait qu'on ait classé ce point sur le financement en dernier est peut-être un peu inquiétant, parce que ça montre que on n'a peut-être pas encore complètement conscience des moyens nécessaires à une bonne mesure d'impact.
Merci beaucoup, Olivier. Florian, Élise, est-ce que vous avez des choses à rajouter?
Peut-être un élément qui, je pense, satisfera également le procureur dans la mesure où ce qui arrive dans les recommandations, c'est finalement de ne plus être simplement au service d'une communication en direction des financeurs, mais bien de réintégrer les utilisateurs, les bénéficiaires et les équipes dans une logique de compréhension, de se rendre compte et plus simplement de rendre des comptes.
Merci beaucoup. Élise, un mot?
Bah, merci de dire tout ce que j'ai présenté en tant qu'experte. Donc forcément, comme outil de gestion, voilà, moi je trouve
Comment?
que c'est très intéressant. Peut-être qu'un des critères de savoir si c'est devenu un outil de
Ah,
gestion,
c'était
c'est de
carrément.
réfléchir au
Non,
sacrifice.
c'était un film.
Souvent, on ne pense
Ah, ok.
pas bah, que si ça devient un
Attends,
outil
t'as
de
dû
gestion,
commencer
ça veut
très
dire que
loin.
les décisions,
Non,
elles
mais c'est
peuvent
pas très
inclure
loin.
des
Ça
renoncements.
se prête en banque.
Quel
Oui,
renoncement
donc je vais commencer à faire. Oui,
a
bah, tu vois,
entraîné
c'est une
finalement
semaine.
cet
Commence.
objectif de réponse à un besoin social. Alors, pour les entreprises sociales, peut-être moins, ou les associations, mais pour les entreprises classiques ou entreprises qui doivent avoir un rendement, que veut dire finalement quel type de sacrifice et de renoncement financier va entraîner le fait de piloter avec de l'impact? Et je pense que ça permet de mettre en perspective finalement que il faut faire des sacrifices et des renoncements dans le contexte dans lequel on évolue pour atteindre justement cet impact social dans beaucoup de cas.
Merci beaucoup, Élise. On accueille tout de suite le jury et on peut les applaudir. Ils ont la lourde tâche donc de compléter. Ils devront compléter votre apport. On spoile ou pas le jury sur votre décision, sur la décision du public? Ah, oh, rien caché, elle est sec. Eh ben, voilà, c'est la transparence, monsieur Lise. On va vous laisser faire votre retour, nous donner à la fois les mesures auxquelles vous avez pensé et à la fois nous dire si vous pensez que l'évaluation d'impact est acquittée ou coupable.
Bonjour. Donc déjà, première remarque, moi je suis DAF, donc financier d'une boîte de la tech en cybersécurité. Donc j'ai particulièrement apprécié votre remarque sur les financiers dans la tech. Donc en tant que financier, quand on parle de coût d'évaluation, ok, ça coûte hyper cher. Mais alors là, je vais contrecarrer tout ce que vous pensez. Ça coûte combien chaque année le coût d'une direction financière, le coût des audits, le coût de fonctionnement expert comptable et tout ça? Ça coûte super cher. Et c'est un modèle sur les directions financières qui est mature. Il y a des décennies, en fait, de mise en place de standards, comment on fait un bilan, un PNL et comment on gère tout ça. Là, on parle d'un sujet qui n'est pas du tout à maturité. Donc, le coût, je pense que ce n'est pas un sujet. Et sur le modèle, je pense qu'on n'est pas encore à maturité. Il faut encore du temps. Ensuite, tous ces éléments d'impact, on peut tout à fait, dans le monde marchand, dans les entreprises qui ont un but lucratif, en fait, c'est faire un partage de cette valeur. C'est-à-dire le modèle économique où juste les actionnaires gardent tous ces fonds. Il est un peu périmé et à nous d'inventer le modèle futur où on a ce partage de la valeur pour flécher ces flux financiers, qui sont un peu le nerf de la guerre quand même, vers les hommes, la planète. Et donc il faut qu'on réussisse à inventer ce modèle et à trouver comment on peut faire pour ça. Donc moi, en ce qui me concerne, c'est l'acquittement et en fait il faut du temps pour que les modèles se mettent en place.
Ouais, ça marche, oui. Je suis vieux, j'ai un costume sombre et des pompes en cuir. Je vous laisse, monsieur le procureur, deviner quel est mon job. Je pense. Pas très à la mode non plus. Juste mon métier, et c'était vraiment fascinant, il est d'être à la fois financeur à certains égards, dans un cadre totalement non lucratif, mais aussi opérateur. Donc avec cette schizophrénie de ce qui a pu se dire. Bon, si ce n'est que c'est moi qui finance mes propres opérations, ce qui est beaucoup plus simple. Vous avez cité, monsieur le procureur, la caverne de Platon, je crois aussi. Il avait un maître qui s'appelait Aristote et qui a inventé le principe de non-contradiction, la porte ouverte ou la porte fermée. Tout ça pour vous dire que la réflexion, elle aboutit à la même conclusion que mon camarade. Nous pourrions procéder par soustraction de la mesure d'impact. On pourrait se dire que se passerait-il, que se passait-il avant et que se passerait-il si elle n'existait pas. Et ça suffit pour moi sans doute à la quitter. J'ai pas le temps de plaider. Je crois en revanche très sincèrement qu'au lieu d'un dogme qui encourt bien les risques qui ont été examinés lors de ce procès, ils sont fondés. Il faut que ça devienne une chose vivante pour que ce que vous avez décrit, monsieur, qui est plus qu'un risque, qui a pu se réaliser, pour ce qui est, vous l'avez dit, des travers, pour ce qui sont des risques de déviation ou pire, de cristallisation d'un dogme unique qu'elle continue à vivre. C'est le vrai intérêt. Je croyais qu'on s'amuserait beaucoup. Vous avez dit des choses extrêmement sérieuses. La mesure d'impact doit être acquittée sous liberté surveillée. Ça n'existe pas en droit, mais je pense qu'il faut y faire attention, oui.
Alors, j'occupe une posture différente puisque moi, on a déroulé plusieurs mesures d'impact dans un réseau associatif qui se fonde sur la création du lien social. Et ce réseau associatif a été créé à partir de 1995. Et la première mesure d'impact, on l'a lancée en 2021. Donc, c'est vous dire qu'on ne se posait pas la question de mesurer notre utilité, notre impact. On avait cette intime conviction que ce qu'on faisait, c'était bien et ça nous suffisait. À partir de là, on est parti du principe de se poser la question de savoir si vraiment nos bénéficiaires, eh bien, retiraient des impacts de nos interventions. Et on s'est aperçu que oui, effectivement. Donc on a été très fiers. Et cette mesure qui a été portée par le réseau a permis de fédérer toutes les équipes. On a réussi à embarquer tous les salariés du réseau derrière un concept qui datait de 1995. Donc la force d'embarquement de la mesure d'impact, chez nous, on l'a mesurée de manière très humaine. On a réembarqué des équipes derrière ce lien social. Donc ce côté fédérateur, on ne peut pas l'empêcher. Il est essentiel et aujourd'hui, il a généré beaucoup de fierté de la part des salariés du réseau qui se sont reconnus dans les impacts qu'ils pouvaient voir tous les jours dans les bénéficiaires. Mais ça, aujourd'hui, c'est une valeur essentielle. Et plus on peut lancer des mesures qui vont valoriser le travail des salariés au niveau du quotidien, plus on va pouvoir avancer davantage sur notre terreau associatif qui est d'œuvrer pour l'intérêt général. Alors que ça passe par une mesure qui est un outil, qui est sans doute perfectible et qui avance en marchant et qui va progresser effectivement, l'intérêt de la mesure d'impact, c'est vraiment de faire un arrêt sur image de ce qu'on est, de se poser la question, est-ce qu'on le fait bien? Est-ce que ça génère des effets positifs ou pas chez les gens qu'on accompagne? Et à partir du moment où on peut valoriser des résultats, on peut continuer à avancer. Donc, c'est pour ça que cet outil, aujourd'hui, est essentiel, a permis de se recentrer sur une raison d'être pour pouvoir essayer de cibler davantage de résultats, davantage d'impact et d'inventer une société meilleure et nouvelle.
On m'entend bien? Oui, c'est bon. Alors, ce procès, il était vraiment génial pour moi parce qu'il a vraiment poussé deux points d'hésitation qui étaient à l'origine déjà là pour moi. Il faut savoir déjà que moi, je suis un produit de l'ESSEC, vu que j'ai fait la chaire innovation sociale, donc j'étais assez convaincue de la mesure d'impact. Tout simplement parce que pour moi, ça permettait aux structures de se poser la question de leur modèle, de leur théorie du changement, de comment elles avaient de l'impact. Donc pour moi, c'était des questions qui étaient essentielles. Maintenant, et c'est là où ce procès, je l'ai trouvé très très bien tourné, il y avait une question qui m'a toujours un petit peu torturée. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont une valeur intrinsèque et qui, par définition, du coup, sont très difficiles à mesurer. Je me rappelle qu'en cours, on a dû mesurer la confiance que prenaient les bénéficiaires et quel impact ça pouvait avoir. C'est un exercice très très difficile. Mais donc, au final, et c'est pour ça que on arrive à cette conclusion, je pense que la mesure d'impact, elle est essentielle et qu'on peut ajouter sur la table ce côté en plus qu'ont les associations qui ont leur valeur intrinsèque et qu'on n'est pas obligé de mesurer, mais juste de le reconnaître. Et à côté de ça, la mesure d'impact, ça permet d'amener une visibilité et de ramener aussi de la traçabilité sur tout ce travail qui est fait par les structures. Voilà.
Merci beaucoup aux membres du jury. Merci, je vous en prie, pardon. Merci aux témoins d'être venus témoigner, aux experts d'avoir démontré leur expertise et aux avocats de la défense et à monsieur le procureur qui est dégoûté de ce verdict. Ça se voit sur sa tête, mais il viendra quand même boire un verre avec nous juste après. Mille merci à Lola et Jérôme pour votre confiance sur ce procès et pour tout ce qui s'est passé ce soir. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a permis de vous éclairer là-dessus. Ce format de procès, il est vraiment fait pour que vous sortiez de là et que vous ayez appris des choses grand 1 et grand 2, que vous ayez passé un bon moment. Si c'est le cas, si vous avez appris des choses et que vous avez passé un bon moment, c'est que nous, notre mission, je pense qu'elle est comprise. Et en tout cas, on était très heureux de mener ce projet. Moi, j'ai découvert l'évaluation d'impact il y a quelques mois. Donc aujourd'hui, j'ai bien compris ce que c'était et je suis très heureuse de repartir en ayant passé un bon moment et appris plein de choses. Merci à vous, cher public, et à très vite.
Voilà, donc comme on dit, c'est le dernier obstacle avant le petit coup. Je ne sais pas quel est l'impact de l'humour et du rire, mais moi je suis très 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 content d'avoir partagé ce moment avec vous parce que j'ai bien rigolé ce soir premièrement. Ouais, mais elles sont pas petites, c'est les montantes. Et j'ai un jean 1083 aussi. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'immatériel aussi le rire. Moi, ça m'a vraiment fait. Et c'est pas de la dérision, en fait. C'est on peut aussi rire de choses sérieuses. On peut aussi rire en parlant de choses sérieuses, y compris dans des périodes un petit peu sombres par certains aspects. J'ai beaucoup apprécié la référence à Pierre Desproges, parce que bien sûr, on a pensé à lui et on a pensé au tribunal des flagrants délires pour ceux qui ont l'âge suffisant pour voir ce que c'est quand on a pensé à ce procès. Et j'ai des frissons en vous en parlant parce que c'est quelque chose qui a été important dans ma formation et dans ma dans mes études aussi. Voilà, donc merci pour ça à tous d'avoir joué le jeu en fait. C'était génial. On savait que c'était un jeu, mais vous l'avez tous super bien joué. J'étais bluffé par les témoins, les experts, les jurys, comme vous êtes rentrés dans le format aussi, bien sûr, nos avocats, nos procureurs, notre présidente. C'était vraiment. Voilà, je voulais saluer votre performance. On a beaucoup parlé de performance, mais voilà, je voulais saluer la performance que vous avez eue ce soir. Et puis, bah, il y a deux personnes qui ont travaillé d'arrache-pied pour que cette chose arrive ce soir. C'est Gaëlle, ici, bien sûr, comme sur tous nos événements. Et c'est Lola, qui est au fond de la salle là-bas. Et Lola, c'est un gros travail d'imaginer un événement aussi qui est un format un petit peu différent. Ça a été beaucoup de préparation. Donc, merci d'avoir joué le jeu. Toute l'équipe aussi s'y est prêtée. On s'est tous penchés sur comment on allait faire ce moment-là. On sera ravis de s'améliorer, de faire encore mieux la prochaine fois. Mais je suis très, très heureux que ça ait eu lieu et que ça ait eu lieu avec vous. Merci, merci à toutes et tous.
Alors, Jérôme m'a demandé de partager quelques mots de réflexion issus de ma propre expérience. Je suis alors, directrice de la stratégie de l'engagement sociétal de l'ESSEC, mais je suis aussi professeure. Et je ne vais pas tellement vous faire rire, je suis désolée, ce n'est pas mon talent, mais simplement vous partager que cette soirée magnifique, vraiment, c'était génial, bravo à tous, m'a ramené 26 ans en arrière quand j'ai moi-même, en tant qu'étudiante à l'époque à Harvard, aux États-Unis, en 2000, entendu parler de ce sujet de l'évaluation d'impact social pour la première fois. Et à l'époque, on était, alors en France, c'était un sujet dont on ne parlait pas du tout, du tout. On commençait à en parler aux États-Unis, notamment sous l'inspiration, on va dire, de la Silicon Valley avec tous les acteurs, notamment Capital Risker, qui se disaient, ah ben, tiens, ce qu'on applique dans nos investissements dans des entreprises classiques, comment est-ce qu'on peut les utiliser et les appliquer auprès des entreprises sociales? Et il y avait cette espèce de d'illusion, je dirais aujourd'hui, qu'on allait pouvoir découvrir une méthode magnifique qui allait nous permettre d'évaluer dans tous les cas la performance sociale des entreprises sociales. Et c'était vraiment, et tout le monde était en train de se dire quelle va être la méthode. Alors, est-ce que c'est le SROI? Non. Est-ce que c'est plutôt la balance scorecard? Non. Est-ce que c'est plutôt... Donc, il y avait cette illusion-là. Et 26 ans plus tard, cette discussion-là, elle est extrêmement éclairante dans le fait qu'il faudrait en fait qu'on arrête de parler de la mesure d'impact ou de l'évaluation d'impact. On devrait systématiquement parler des mesures des impacts ou des évaluations des impacts. Parce que, on le voit bien, ça a été très bien dit, c'est ressorti aussi dans le questionnaire qui a été fait. Il y a plusieurs finalités possibles à ces évaluations des impacts. On peut être dans une logique d'amélioration continue en interne, on peut être dans une logique de prouver vis-à-vis de financeurs, vis-à-vis d'acteurs publics. Aussi, ça n'a pas été évoqué, mais l'évaluation d'impact, elle peut être très utile pour convaincre des acteurs publics de l'utilité d'une initiative, d'un projet et de réfléchir peut-être à une généralisation d'une telle initiative. Donc, plusieurs finalités, plusieurs méthodes. Ça n'a pas été le cœur du débat, mais Élise sait combien c'est un sujet. Est-ce qu'il faut plutôt des approches qualitatives, quantitatives, la monétarisation? Est-ce que c'est une bonne, une mauvaise idée? Et évidemment qu'il n'y a jamais une seule méthode absolue pour répondre à toutes les questions. Et donc, il faut bien se poser la question de, en fonction de ce qu'on vise, trouver la bonne méthode qui permet de bien éclairer le sujet. Il y a des sujets de temporalité, ça a été très bien évoqué. D'abord, qu'est-ce qu'on évalue sur quelle période de temps? Est-ce qu'on est dans une logique de court terme, de long terme? Et là aussi, il y a besoin de prendre en compte ces spécificités et ces enjeux-là. Et puis, on a beaucoup fait le procès des financeurs, quelque part. Et en fait, derrière les sujets d'évaluation des impacts, il y a les sujets des parties prenantes. Et donc, il y a évidemment le rôle structurant des financeurs. Et personne ne pourrait dans cette salle dire qu'on n'a pas besoin des financeurs ou qu'ils ne jouent pas un rôle déterminant dans la production de l'impact. Mais il y a évidemment les bénéficiaires, il y a des partenaires dans des logiques d'action collective. Et donc, cette soirée, elle a été vraiment, je trouve, extrêmement puissante dans le fait de nous rappeler combien on parle d'un sujet qui est complexe, qu'on parle d'un sujet qui est ambigu, on parle d'un sujet qui est voilà, multifacette. Mais il me semble que les termes du débat ont très bien posé l'importance de cette démarche au travers de quatre prismes, celui de la transparence, parce que les évaluations ou les mesures sont un exercice de mise en transparence. Un enjeu de responsabilité quand on traite de l'intérêt général, quand des acteurs se voient confier des ressources, qu'elles soient publiques ou privées, pour faire. La question de la responsabilité de ce qu'on fait, de ces ressources, elle est très grande. Et puis des questions d'adaptation et d'émancipation. Je crois que c'est Olivier qui évoquait ces termes-là, mais qui sont vraiment l'ensemble des enjeux auxquels ces évaluations des impacts répondent. Et je pense que voilà, on est dans un chemin de maturité. Peut-être qu'un jour, je crois que c'est vous qui disiez, effectivement, quand on traite de l'évaluation de la performance financière, on a des années de recul pour savoir comment le faire. Rendez-vous dans 25 ans pour un nouveau procès et regarder où on en est. D'ici là, je crois qu'on peut aller boire un coup.